le canevas de développement dans lequel ils doivent s'intégrer pour fonctionner avec le navigateur. Ce sont des extensions, et comme toutes les extensions, elles ont des limites quant aux privilèges et aux permissions qu'elles ont sur le navigateur. Et donc, du coup, en fait, ces extensions se retrouvent réduites à blacklister des URL ou des patterns de chargement de ces librairies JavaScript de fingerprinting ou de tracking. Donc, ce qui est quand même pas très idéal quand on veut se protéger face à des attaquants qui peuvent changer ces patterns-là pour les évader. Alors, si jamais vous voulez protéger votre réseau avec un ghostery généralisé, vous ouvrez l'extension, vous reprenez tous les patterns, ce sont des expressions régulières, vous les réutilisez et vous pouvez bloquer gratuitement l'ensemble de ces régies publicitaires sans forcément avoir à déployer une extension sur les navigateurs de votre entreprise. C'est cadeau. Pour les utilisateurs de navigateurs mobiles, récemment Firefox a sorti une version privacy orientée. Je ne sais pas ce que ça vaut en termes de sécurité, mais c'est une initiative qui est louable quand on connaît la sensibilité de toutes les informations que l'on peut saisir dans un téléphone ou ce qu'on peut faire avec sur Internet. Concernant la sécurité maintenant, c'est-à-dire la lutte contre les attaques informatiques qui pourraient passer ou cibler notre navigateur, actuellement, l'approche traditionnelle consiste à faire de l'interception SSL et à casser le chiffrement SSL au niveau du poste du client, donc c'est l'antivirus qui vient casser ce chiffrement SSL, pour pouvoir analyser tout ce qui est chargé par le navigateur et mener des analyses complémentaires sur les contenus chargés. Le problème, ça a été démontré par une étude conjointe de Google et Cloudflare, c'est que la façon dont cette interception SSL est faite par votre antivirus sur votre poste local est loin d'être idéale en termes de sécurité vis-à-vis des attaques SSL existantes. Ça veut dire que votre antivirus ou votre solution de sécurité personnelle qui vient protéger votre navigateur contre les attaques Internet vient dégrader la sécurité de votre chiffrement et donc votre confidentialité sur l'Internet. Donc c'est pas forcément terrible. Donc je vais vous donner un petit exemple de comment ça se passe quand on charge un contenu malveillant. Bon là, j'ai pris un exemple très simple de XSS. Tout le monde sait à DGMI que j'adore les XSS. Donc du coup, on va avoir un contenu malveillant qu'on va charger sur une page web. Ce contenu aura par exemple été injecté au préalable par l'attaquant sur le site en question. Généralement, ce contenu est composé de code HTML et de code JavaScript qui seront transporté par-dessus HTTP ou HTTPS. La portée radio, c'est pas terrible. Et donc, du coup, votre navigateur va charger ce code et va le passer à un premier composant, qui est un parseur HTML, qui va essayer de comprendre le HTML, va en extraire les parties intéressantes, par exemple les images, la mise en forme, etc., et le code JavaScript contenu dans la page. Ce code JavaScript va être envoyé à un interpréteur JavaScript. Alors, voilà le code HTML en question, c'est une petite image avec du code JavaScript en plus. Le code JavaScript va être chargé dans l'interpréteur JavaScript, donc voici le code qui va être chargé. Et ce code va venir récupérer une information dans votre navigateur. Bon là, c'est un cookie de session, c'est un truc qui marchait dans les années 2004. Normalement, tous les cookies de session maintenant sont protégés, en théorie. Du coup, le code JavaScript, en s'exécutant, va venir exfiltrer le cookie de session en réécrivant des petites choses dans la page HTML. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous avez un code JavaScript qui se charge, il peut allègrement, volontairement modifier la page et venir rajouter des choses en plus. Ce qui signifie que quand vous faites confiance à un code JavaScript, quel qu'il soit, bah vous lui donnez tout droit d'exécution sur la page web que vous venez de charger. Donc là, en l'occurrence, on écrit une image, ça provoque l'exfiltration et un cookie de session. Dans l'idéal, un dispositif de sécurité qui me permettrait de venir contrôler et analyser ces codes JavaScript devrait fonctionner sur tous les navigateurs sans avoir à faire énormément de codes spécifiques à chaque navigateur. Il faudrait idéalement aussi ne pas les modifier, parce que le problème de ces composants-là, c'est qu'ils sont extrêmement complexes, et si je viens patcher ou modifier ce navigateur, qu'est-ce qui me garantit que je ne vais pas rajouter des vulnérabilités supplémentaires à mon navigateur, comme c'est le cas par exemple lorsque un antivirus fait de l'interception SSL. Je ne veux pas casser les mécanismes de sécurité existants qui sont à l'état de l'art. Et donc, du coup, ne pas faire de man in the middle au niveau SSL pour venir contrôler le code JavaScript chargé par le navigateur. Donc maintenant, on va prendre un peu de recul, on va parler de JavaScript en lui-même. Un grand nombre d'attaques contre les navigateurs reposent sur JavaScript. Mais c'est aussi vrai pour les PDF. Les PDF embarquent des moteurs JavaScript et un grand nombre d'attaques sur les PDF se reposent sur JavaScript. Le JavaScript, c'est un code qui va venir manipuler le navigateur via ce qu'on appelle des API, donc des interfaces de programmation. La plus connue d'entre elles, c'est ce qu'on appelle le DOM. Ça vous permet par exemple de dire dynamiquement dans JavaScript, je vais rajouter une image dans ma page web. C'est ce qui permet, par exemple, lorsque vous allez sur Gmail, de ne pas avoir à rafraîchir systématiquement la page à chaque clic. Et le code JavaScript, il est présent dans plein d'endroits dans une page HTML. Du coup, c'est très compliqué, quand on a une page HTML, de venir récupérer tous les codes JavaScript qui sont dedans. Pour ça, il faut utiliser un parseur, sinon on risque de se tromper. Et pour la cerise sur le gâteau, c'est que le JavaScript est un langage dynamique, avec des propriétés intéressantes. Par exemple, on peut exécuter du code dynamiquement, c'est-à-dire qu'on peut écrire du code et ensuite le réexécuter. Ce code lui-même va pouvoir réécrire du code et réexécuter, etc., etc. Ce qui fait que ça permet de faire des obfuscations très 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 agréables à lire, comme vous le constatez. Ici, il s'agit juste d'un alert 0, c'est-à-dire de l'affichage d'une petite pop-up. C'est exactement ce code-là, le alert 0, qu'on va utiliser dans la démonstration qui aura en fin de présentation. Donc, pour contrôler JavaScript, on a quelques éléments, Dieu merci. On a la same origin policy qui gêne régulièrement les développeurs et qui cherche toujours des moyens de la contourner pour faire fonctionner des applications de plus en plus interconnectées, les fameux mashups. On a les politiques d'accès. Par exemple, on peut interdire à un code JavaScript de venir charger des données sur votre site. Donc ça, c'est avec CORS. On a CSP que je vous ai mentionné qui permet de spécifier d'où le navigateur peut charger du contenu. Et on a le fameux XFrame option qui permet d'empêcher les attaques type clickjacking. Et du coup, il nous manque un truc. Comment on fait pour contrôler l'accès à une fonction particulière dans le DOM, par exemple document.cookie? Comment on fait pour faire en sorte qu'on interdise à JavaScript de réécrire des choses dans la page? Comment on fait pour empêcher ça? Alors, si on veut le faire nativement dans le navigateur, il va falloir patcher, recompiler. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de télécharger les sources de Chrome et de le recompiler, mais il faut du courage. Il y a une autre solution. Dans les normes JavaScript ES6, on peut venir encapsuler un objet JavaScript et du coup venir mettre du contrôle d'accès sur cet objet. La seule contrainte, c'est qu'il faut être le premier à s'exécuter. Si l'attaquant exécute son code JavaScript avant vous, vous avez perdu. Par contre, si vous le placez avant lui, vous avez gagné. Donc l'idée, c'est de faire un moniteur de sécurité en JavaScript et de l'injecter directement dans le moteur du navigateur, sans le modifier. En gros, l'idée de la mise en œuvre, c'est qu'on va se placer entre le parseur HTML et l'interpréteur JavaScript, et on va ajouter le code de monitoring juste à cet endroit. Bon, ça, c'est la théorie, hein. Alors, pour ce faire, j'ai utilisé un outil qui s'appelle Frida. C'est un outil d'analyse dynamique pour le reverse engineering, qui est basé sur le moteur JS V8 de Chrome. Ça permet de venir détourner l'appel de fonction au moteur du navigateur, par exemple, donc à n'importe quelle fonction, et ça a la bonne propriété très agréable d'être compatible sur d'un très grand nombre de plateformes. Du coup, ça veut dire que si je développe un outil qui travaille avec Frida, je vais pouvoir venir analyser le comportement du moteur de Firefox, par exemple, sous Windows, sous Linux, sous Android ou sous iOS. Tout ça avec la même base de code. Et en plus, ça a le bon goût d'être utilisable en Python, et je préfère le Python au C. Du coup, pour venir analyser du code JavaScript, je vais aller injecter un moteur JavaScript dans mon moteur JavaScript, et à chaque fois que je vais appeler que le moteur JavaScript va exécuter du code JavaScript, mon moteur va être appelé et va exécuter mon code JavaScript à moi en plus. Du coup, quand j'exécute du JavaScript, j'exécute du JavaScript. Oula, le clicker aussi, parfois, il crache. Donc, en pratique, les débuts, ça peut cracher régulièrement, mais avec un peu d'huile de coude, on s'en sort. Donc, pour ceux qui voudraient faire pareil, vous pouvez aller, par exemple, utiliser les outils de debug qui sont mis à disposition par les gens de Firefox. Vous pouvez avoir accès à tout le code source, c'est l'avantage de l'open source. Et donc du coup, bon, faire attention où est-ce qu'on met les doigts dans le moteur du navigateur, sinon il peut vite se gripper. Si jamais vous vous ratez sur l'interprétation d'un objet à un endroit donné, ben, là aussi, pareil, vous allez mettre les doigts dans une section du code qui ne va pas, et du coup le navigateur, il va crasher. Ce qui est bien, c'est qu'avec Firefox, vous avez tous les symboles de debug disponibles, donc vous pouvez mettre en place ce monitoring très simplement, très efficacement. Le source est assez lisible, et si jamais vous faites des recherches sur les différentes fonctions du moteur JavaScript, vous avez des XR pour vous aider. Firefox est un navigateur maintenant multiprocess, donc ce qui est très agréable, c'est que si jamais vous crachez un onglet, c'est pas trop grave, vous crachez pas tout le navigateur et donc toute la session de navigation. Voilà. Et du coup, c'est relativement stable à partir du moment où vous faites pas n'importe quoi avec Frida. Donc, je vais essayer de vous faire une démo. En fait, non, je vais vous passer une vidéo de démonstration parce que j'ai pas pu brancher mon PC, peut-être pour des raisons de sécurité. Donc du coup, vous allez revoir l'exécution du code alerte dont je vous ai parlé tout à l'heure, obfusqué de diverses manières, et à chaque fois, vous allez voir qu'avec avec ma technique d'analyse, on peut venir récupérer ce code d'exécution. Vous avez vu, c'est un chat militarisé. Et on m'a dit qu'il fallait que je meuble, donc du coup, j'essaye de meubler. Comme quoi, même en vidéo, des fois, les démos, ça marche pas. Vous avez peut-être une question en attendant, rapidement.
C'est quoi DXR?
DXR, en fait, c'est la base de code de Mozilla. Donc, vous allez sur dxr.mozilla.org et du coup, vous allez avoir un moteur de recherche qui va vous permettre de faire des recherches dans le code de Firefox. Et il est très gros, le code de Firefox. Pas aussi gros que celui de Chrome, mais c'est déjà pas mal. D'autres questions? Alors en fait, en termes de performance, quand on fait du hooking, forcément, on dégrade un peu les perfs. Mais l'avantage, c'est que en fait, on se met à l'entrée du moteur. Donc du coup, vous limitez le nombre d'appels à ce hook. Parce que si jamais vous allez plus bas dans le moteur, vous risquez d'être appelé un très grand nombre de fois. Et donc du coup, vous dégradez énormément les performances. Tandis que là, je vois une souris qui bouge. Tandis que là, l'avantage, c'est que si par exemple vous venez insérer du code JavaScript modifié, vous bénéficiez de toutes les optimisations de code qui sont intégrées au moteur. Donc du coup, c'est pas trop mal. Vous allez voir, normalement, sur la démo, c'est assez fluide. En fait, ce qui rame le plus quand on utilise Frida, c'est plutôt la sortie texte quand on fait du debug pour les démos. Parce que forcément, les I.O. Entre le stub de debug Frida que vous injectez et puis votre code Python, elle est pas terrible. Alors, on commence par le packer de JavaScript de Dean, qui est l'un des premiers packers JavaScript qui ont été publiés. Voilà. Donc, vous voyez, on a la pop-up et on a le script packé. C'est assez dégueulasse à lire, hein, j'avoue. Personnellement, j'aime pas trop. Mais du coup, si on laisse l'outil s'exécuter, on récupère Hello World. Il y a une pause volontaire entre chaque script. Voilà. On récupère le code parfaitement dépaqué. Là, pour l'instant, j'ai pas fait de travail sur le source JavaScript. Hein. J'ai juste utilisé. Regardez ce qui rentre. Donc là, on a des JSFuck. Donc c'est pareil. Hein. C'est une implémentation de BrainFuck en JavaScript. C'est assez dégueulasse à lire. Ce ne sont que des parenthèses, des plus et des accolades. Mais du coup, on peut quand même récupérer le code JavaScript en clair. Et là, pareil. Troisième exemple avec gjencode. Pareil, qui est une obfuscation à base de smiley et on récupère le code JavaScript en clair. Je suis désolé, ça allait un peu vite. Très intéressant de voir la souris bouger tout seul, j'ai l'impression de m'être fait pirater là. D'autres questions? Donc voilà. Donc l'idée maintenant, c'est de faire la même chose, mais avec d'autres navigateurs, hein, bien entendu. Je pense viser Chrome, Internet Explorer. Alors Internet Explorer, ça a déjà été fait. Il y a déjà une preuve de concept à base de WinDBG qui avait été présentée l'année dernière à Hack.lu. Et ensuite d'intégrer des mécanismes de désobfuscation un petit peu plus évolués, notamment lorsqu'on a du code mort à gérer, en faisant de l'évaluation partielle sur les portions déterministes du code JavaScript. Un autre axe de travail, c'est l'utilisation d'un outil pour implémenter cette politique de sécurité, cette politique d'accès aux méthodes de l'API JavaScript. Donc si jamais vous manquez d'idées de thèse ou de stage, venez me voir, je vais vous en souffler quelques-unes. On a des sujets très intéressants à ce niveau-là. Est-ce que vous avez des questions ?
Ta démarche a l'air presque bête comme chou, on va dire logique, et on se demande est-ce qu'on peut espérer des produits industriels ou que les éditeurs des produits de base se penchent sur la question et délivrent quelque chose d'industriel.
C'est un petit peu le sens de cette présentation, c'est-à-dire que là on est sur de l'assemblage artisanal avec des outils qui sont plutôt orientés reverse engineering, mais on pourrait tout à fait envisager des sondes de sécurité capable d'analyser ces codes-là et qui seraient déployés sur les postes de travail des personnes. C'est totalement le sens de cette présentation, c'est d'inciter nos chers industriels à se pencher sur cette question, avec éventuellement l'aide de nos académiques pour les problématiques de politique de sécurité. Je crois savoir d'ailleurs qu'il y a des travaux de thèse qui ont lieu à Cidre sur ce sujet-là. D'autres questions ? Bon, sinon, j'ai une petite information. Je me suis amusé avec cet outil-là à regarder ce qu'il y a sur le site lepoint.fr. Juste comme ça, parce qu'ils ont des articles très intéressants sur la cybersécurité. Et donc, du coup, en fait, quand on exécute une page de lepoint.fr, on a 426 appels au moteur JavaScript. Voilà. Dont 30 qui sont le chargement de régie d'analyse statistique, donc des analytics, qui ont la joyeuse bonne idée de faire du fingerprinting sur votre navigateur au passage. Et de 150 régies publicitaires, dont certaines sont situées dans des pays où il fait très froid. Et au total, lorsque vous chargez cette page du site lepoint.fr, vous avez plus de 16 870 lignes de code JavaScript, dont certaines lignes sont extrêmement grosses, c'est-à-dire que tout le code est sur une ligne. Je vous laisse imaginer ce que ça donne quand même. Votre navigateur, en 3 secondes, vous exécute tout ça et vous n'avez rien vu. D'où l'intérêt d'aller regarder ce qui se passe.
Y a-t-il une autre question ? Après cela. Merci Erwan.
Merci à vous.